à voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie rend hommage à Maurice Béjart. Maurice Béjart nous a quittés le 22 novembre 2007, l'année de ses 80 ans. Danseur et chorégraphe de renommée internationale, Maurice Béjart fut élevé à l'ordre du Soleil Levant en 1986 par l'empereur Hirohito, nommé grand officier de la couronne en 1988 par le roi Baudouin de Belgique. La Japan Art Association lui décernera en 1993 le Praemium Imperiale, qui récompensait chaque année 5 artistes de renommée internationale. Enfin, l'Association allemande des professionnels de la danse lui a attribué son prix en 1994 pour sa contribution exceptionnelle à l'évolution de cet art au cours de ce siècle. Maurice Béjart fut élu membre de l'Académie des Beaux-Arts. Maurice Béjart était académicien. Il fut élu le 1er juin 1994 au fauteuil de Paul-Louis Weller. Maurice Béjart est mort à Lausanne. Lausanne, qu'il avait accueilli en 1987, il y a 20 ans. C'est là, à Lausanne, que sa compagnie, le Ballet du XXe siècle, devint le Béjart Ballet Lausanne, un Béjart Ballet Lausanne de renommée internationale, aimé, attendu, applaudi par le monde entier. Nous avons rendez-vous avec Maurice Béjart. Nous avons rendez-vous avec lui grâce à la présence devant les micros de Canal Academy d'Anne Delbé. Anne Delbé qui aime à se définir avant tout comme un homme de théâtre. Anne Delbé qui a réalisé plus de 50 mises en scène de théâtre, d'opéra. On se souvient de l'échange au Théâtre de la Ville, de Phèdre à la Comédie Française, Don Giovanni à l'opéra, la gigantesque trilogie de Wallenstein et puis tant d'autres. Anne Delbé, écrivain, ressuscita Camille Claudel il y a 25 ans avec son livre « Une femme », un livre traduit dans plus de 20 pays. Maurice Béjart, Anne Delbé ont en commun leur passion absolue pour le théâtre. Mais il faut dire un théâtre comme l'entendaient les Grecs, un théâtre qui inclut le texte, la danse, le chant. À 6 ans, Anne Delbé, vous avez eu le privilège de rencontrer Jean-Louis Barrault et de ne plus le quitter. Et c'est justement aux côtés de Jean-Louis Barrault que vous retrouverez un jour face à Maurice Béjart. Il était une fois, dites-vous. Un rendez-vous avec Maurice Béjart, qui ne s'est plus arrêté, qui continue et qui continuera.
Et qui continue, oui.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. Show!
Handelbe, Show Must Go On, le spectacle doit continuer malgré son absence?
Oui. Évidemment, quand on entend cette musique, on le voit, comme il était toujours à la fin, cette silhouette. Voilà, c'est difficile, mais ça doit continuer dans la joie. Et surtout pas dans la tristesse, mais voilà, c'est la réincarnation du spectacle, on le voit. On écoute cette musique et on le voit, avec tout son ballet.
Pardonnez-moi, je suis un petit peu émue. Je disais avec tout son ballet, qui sont, lui, toujours dirigé par Gilles Roman, comme Gilles le faisait à ses côtés, et comme il le fait aujourd'hui. Et d'autres continuent à travailler, même si Maurice Béjart a traversé les nuages. Il y a toute la ville de Lausanne qui assure son soutien, qui travaille aujourd'hui comme hier. Sa secrétaire personnelle, Marie-Thérèse Jacquard. Toute l'école dirigée par Michel Gascard. C'est-à-dire, je ne peux pas tous les nommer, mais ils sont tous là, incarnés dans l'Oiseau de feu. Je pense que Maurice Béjart était avant tout un oiseau de feu. Il l'a d'ailleurs chorégraphié. Et il disait de l'oiseau de feu que c'était un révolutionnaire, c'était quelqu'un qui ressurgissait toujours, et qu'un oiseau de feu était avant tout un poète, disait-il. Maurice Béjart est un oiseau de feu.
Alors, votre première impression, votre réaction première lorsque vous avez été pour la première fois confronté à ce créateur?
Ma première confrontation avec Maurice Béjart, c'était par son œuvre, c'est-à-dire que j'ai d'abord vu ses chorégraphies enfants emmenées par mon père, qui avait une passion pour ce que Maurice Béjart faisait. Ensuite, effectivement, chez Barreau, Maurice Béjart avait monté les Tentations de Saint-Antoine, donc j'ai vu puisque j'étais tous les soirs chez Jean-Louis Barreau. Ensuite, je l'ai rencontré au Théâtre de la Ville quand je montais l'échange et il m'avait demandé de le suivre à Bruxelles, ce que je n'ai pas fait. Ensuite, je l'ai vraiment rencontré, tout à fait par hasard. Vous savez, c'est long, quelquefois, les rencontres. C'était au moment de King Lear et j'avais monté Phèdre à la Comédie Française et dans les coulisses, il m'a pris le poignet entre sa main et nous avons fait quelques pas ensemble et je ne l'ai plus jamais quitté. Voilà.
Quelles étaient les forces qui se dégageaient du caractère de Maurice Béjart? Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce qui vous a transmis? Qu'est-ce qui vous a fait amplifier encore votre envie de créer?
Je pense, comme tout génie, c'était, et c'est quelqu'un, c'est comme si quand vous écoutez la 9e de Beethoven, où tout d'un coup on a envie d'être à cette dimension-là. C'est-à-dire que je crois que les génies éveillent chez les autres êtres qu'ils rencontrent une envie de se dépasser, une envie d'être plus intelligent, d'être vraiment un être humain dans toutes ses dimensions. Donc Maurice Béjart avait cette faculté de tout de suite poser ses yeux bleus magnifiques qu'il avait, ses yeux émeraudes, sur vous. Et il vous donnait l'impression qu'il allait apprendre quelque chose de vous. Et donc on essayait de répondre à son attente.
Je sais que l'une des phrases dans lesquelles vous vous retrouvez le plus et dans laquelle vous puisez le ferment de toute cette activité créatrice qui vous anime dans le domaine de la mise en scène, du théâtre, de l'écriture, c'est une phrase de Sophocle tirée de sa magnifique pièce Antigone. « Je ne suis pas née pour rassembler autour de la haine, mais autour de l'amour. » Est-ce qu'on retrouve cette même notion d'amour et c'est cette volonté de rassembler autour de l'amour chez Béjart?
Tout à fait. Je vais expliquer ça en... D'abord, je pense que tout le monde se souvient que Maurice Béjart a toujours eu dans ses ballets toutes les civilisations. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était de toutes les civilisations, donc il rassemblait autour de lui. C'est quelqu'un, comme on le sait, qui a rendu à la danse son plus grand côté populaire. C'est-à-dire que il est d'ailleurs touchant de voir combien, ne serait-ce que l'année dernière, quand il venait à Paris, il pouvait remplir le Zénith ou le Palais des Sports. On peut dire que peut-être le mot « amour » peut être énormément galvaudé. Et je voudrais revenir au testament qu'a laissé son père, le philosophe Gaston Berger, à son fils Maurice Béjart, où il parle justement de ce qu'est l'amour. Et on peut comprendre à ce moment-là ce qu'était l'amour dans l'œuvre et dans la vie de Maurice Béjart. Je ne regretterai de la vie terrestre ni la puissance qui est méprisable, ni les plaisirs qui sont fragiles. Je ne puis m'empêcher de songer avec regret aux êtres. Il y a sur terre que deux choses précieuses. La première, c'est l'amour. La seconde, bien loin derrière, c'est l'intelligence. Amour et intelligence ne se séparent d'ailleurs pas à qui en entend bien le sens. En dehors de cela, il n'y a rien. Quand on entend amour, il faut entendre intelligence. Et je pense que c'est tout le secret des chorégraphies de Maurice Béjart.
Anne Delbé, tout au long de cette émission, nous écouterons tout un choix musical que vous avez effectué pour nous et pour Maurice Béjart. Expliquez-nous pourquoi ce choix musical. On a entendu tout à l'heure Queen dans Show Must Go On, L'oiseau de feu de Stravinsky, un choix hétéroclite. Pourquoi? Expliquez-nous.
Oui, il n'est pas hétéroclite puisque chaque musique choisie correspond à Maurice Béjart, c'est-à-dire où il en a fait un ballet, où il l'aimait pour des raisons précises. C'est une émission sur Maurice Béjart et cela n'avait pas de sens de prendre des musiques de mon choix. Ce qui avait d'extraordinaire, et plus il vieillissait ou plus il rajeunissait peut-être, puisque Maurice Béjart avait une haine totale de la biographie et des suites logiques des dates, il arrivait à mélanger Mozart avec Queen et il avait autant d'amour pour Barbara ou Damia qui lui rappelait les chansons que chantait son père, ou tout d'un coup la 9e de Beethoven où il créait ce ballet magnifique sur la 9e. Et j'ai essayé de témoigner, non pas de ce sac en vrac, mais au contraire, il y avait une logique profonde qui était que cette musique devenait pour lui de la chair à ballet, c'est-à-dire quelque chose qu'il en faisait, avec des amours encore plus profonds peut-être pour Wagner qui était comme son père. On vient d'entendre le prélude, l'ouverture de Tristan et Iseut que Maurice Béjart a chorégraphié. Enfin, vous savez, je dis le prélude, des fragments, et puis nous avons fait un montage des musiques. Ça doit faire se retourner dans les tombes beaucoup de génies et de musiciens. Mais on est dans la scène, on est dans le théâtre un petit peu avec cette émission. C'est un peu un clin d'œil. Maurice Béjart faisait aussi du coupé-collé.
L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est le silence.
Son sens de la création, comment concevait-il la création et quel sens donnait-il à la création?
Je ne me permettrai pas de parler à sa place, mais d'abord il l'a écrit, il a dit « Je n'écris jamais d'arguments de ballet », c'est lui. Hein. « La musique me dirige, les corps m'inspirent, Et soit au studio, soit sur la scène, des formes surgissent, des relations se nouent, le ballet prend sa vie de chair et de son. Bien plus tard, l'œuvre terminée, j'écris un texte, souvent destiné au programme, mais qui ne tente pas d'expliquer, la danse se suffit à elle-même, mais paraphrase le mouvement par un autre ballet de mots. Et souvent, il tombait amoureux d'une musique, il était bouleversé par une musique. Mais c'est quand il était avec ses danseurs qu'il commençait à créer, à voir.
Pourquoi parlait-il de ses ballets comme s'il s'agissait d'œuvres théâtrales, de dramaturgie ?
Parce que Maurice Béjart n'a jamais distingué entre la danse, le théâtre, et justement dans une époque où on va tellement vers cette spécificité qui est insupportable, enfin, qui est absurde. Je vais juste vous lire un texte, j'essaye au maximum de répondre par lui et je veux pas par moi. Les classifications me sont étrangères. Au XVIIe siècle, le mot théâtre désignait la scène. Être sur un théâtre égale être sur scène. Je fais du théâtre, c'est-à-dire des œuvres qui voient le jour sur une scène. L'acteur est celui qui est. Existence parlante, chantante, dansante, muette, gestuelle, etc. L'acteur total, Kabuki par exemple, est capable de parler, chanter, danser. Le chœur grec de la tragédie faisait sûrement de même. Aussi me semble-t-il normal de faire danser Robert Hirsch, Maria Cazares ou Didier Sandre, de faire parler mes danseurs, chanter tout le corps de Ruggiero Raimondi ou de danser, moi, sur la voix de Maria Callas. L'être est une unité. L'interprète est pour moi presque toujours le départ de l'inspiration. À travers lui, le monde scénique voit le jour et l'univers théâtral s'organise. L'acteur, danseur, chanteur est l'essence de l'œuvre. Tout le reste est accessoire. Un ballet est donc toujours une rencontre.
Devant ses créations et leur succès, comment réagissait-il ? Est-ce qu'il arrivait à goûter ses créations ou, éternellement insatisfait, se projetait-il toujours vers la création future, la création à venir ?
Bon, d'abord, il était heureux du public, il faut le dire. Vraiment, comme il disait souvent, c'est le plus beau cadeau d'amour, c'est que le public soit au rendez-vous. Et le public lui a montré de plus en plus... magnifiquement, c'est-à-dire que les salles, c'était 8000 personnes partout dans le monde entier. On a quelquefois en France, on n'a pas idée de la renommée, la reconnaissance de Maurice Béjart dans le monde entier. Par la suite, il jugeait des ballets qu'il trouvait qu'il avait ratés ou d'autres ballets qui étaient devenus des classiques et dont il acceptait absolument que ce soit des classiques sans aucune flagornerie, ni simplement, c'était clair, tout le monde sait que le Boléro et Le Sacre du Printemps est un classique. De toute façon, Maurice Béjart avait un rapport sur ce qu'on appelle classique, il ne comprenait pas du tout ce que ça voulait dire ou moderne. Pour lui, moderne, ça voulait dire Van Gogh, Beethoven. Le reste, c'était à la mode et donc la mode ne l'intéressait absolument pas. Absolument pas, ça, c'était de l'imposture. La mode était de l'imposture. Et d'autre part, il avait des colères sur lui-même, sur des choses dont, comme tout grand créateur, et puis tout de suite, effectivement, c'était aller de l'avant. Et je sais que, enfin, je peux me permettre de le dire, puisqu'à la fin de sa vie, il me l'a dit, qu'il avait encore plein de ballets dans la tête à faire. C'est-à-dire, il n'était pas du tout en bout de course, il était au contraire... Vous savez, on a dit que Mozart était mort de trop de notes qu'il avait dans la tête. Je pense que Maurice Béjart est mort de... Il avait trop de ballets à faire, ça explosait.
Son éloignement de France lui a procuré quel type de réaction ? Peine, ressentiment, indifférence ?
D'abord sûrement une grande peine, parce qu'il était né en France. Et puis il y avait ce projet entre lui, Villars et Boulez, donc une grande espérance d'un très grand théâtre. Et il m'a raconté combien de fois il avait déposé des dossiers, on faisait des ouvertures, on lui promettait des lieux et rien ne s'est passé. Ensuite, il a eu sans doute des grandes colères et comme il a fait toute sa vie, quand ça n'allait pas, Maurice Béjart prenait son sac, son bagage, qui était souvent d'ailleurs un sac de plastique, et il partait ailleurs. Et donc ensuite, sûrement par moments, ça devait alterner entre une nostalgie, puis de nouveau des colères. Mais sûrement à la fin de sa vie, il y avait un grand rire. D'abord un grand rire parce que, comme vous le savez, dans le monde entier, Maurice Béjart remplissait des salles de 5000 à 8000 à 10000 personnes. Et quand il est allé en France encore dernièrement, c'était entre le Zénith et le Palais des Sports et c'était comble. Et je pense que ça sera comble en janvier parce que les Français l'aimaient profondément. Voilà, donc j'espère que j'ai à peu près répondu sur son état d'âme. Mais vous savez, quand ça a pu être non plus en Belgique, il est parti de Belgique. Maurice Béjart, et là, il était prêt. Je pense que si Lausanne ne lui avait pas constamment montré sa fidélité, il aurait été capable, même à 80 ans, comme Léon Tolstoï, de repartir sur la route.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser.
Lorsque j'ai été reçue à l'Académie, j'ai clairement affirmé que j'acceptais d'être membre de l'Institut, non pour mon honneur personnel, mais pour celui de la danse. La joie que je ressentais était celle de voir la danse reconnue par l'Institut de France, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Lorsque j'ai été décoré par l'empereur du Japon ou par le pape, c'est encore ce que j'ai ressenti, que l'on reconnaisse la danse comme un art à part entière, et qu'elle puisse être partagée par le plus grand nombre. Cela a toujours été mon leitmotiv.
Maurice Béjart, selon vous, Andelbé, a-t-il été un homme heureux?
Je ne me mêlerai pas de dire, mais il faut relire ce qu'il dit sur Nietzsche et sur l'artiste, où il redit l'artiste est d'abord quelqu'un qui doit posséder la joie en lui. Donc, je ne dirais pas quelqu'un d'heureux, mais quelqu'un qui avait la joie. La joie n'amène pas forcément au bonheur, la joie peut amener au désespoir, mais je pense qu'il possédait déjà cet acte de joie. Il avait, comme tous les génies, des grands désespoirs, des grands sûrement. Ça ne me regarde pas. Oui.
Que représentait la mort pour lui?
Il a beaucoup parlé de la mort. Toujours, il a dit que la mort était une amie. Il a toujours dit que dans ses ballets, vous savez, la mort était une jeune femme aux yeux bleus, puisqu'il était toujours... Non pas hanté, ça serait stupide de dire ça, mais à la rencontre de cette mère qu'il avait perdue à l'âge de 7 ans, cette mère aux yeux bleus qui lui avait légué ses yeux bleus magnifiques. Et en même temps, il avait ce côté extrêmement simple de dire « Mais pourquoi on s'en fait avec la mort ?» puisque c'est la seule chose que tout le monde a en commun. C'est-à-dire, dès qu'on naît, on sait au moins une chose, c'est qu'on va mourir. Et il parlait de la mort d'une manière extrêmement comme une amie. Je pense que tous ses ballets, d'ailleurs, la mort était une amie. On peut ouvrir n'importe quelle page qu'il a écrite, on verra qu'il parle de la mort, mais disons là, juste quelques lignes. Naissance et mort, comme le début et la fin d'une phrase. En même temps, je les compare à l'intérieur de la main et au-dessus de la main, liés et très différents. Pour reprendre l'exemple de la main, la peau n'est pas la même de chaque côté. On ne peut jamais voir le dos sans que la face existe et inversement. Impossible de couper au milieu. Il est tout aussi évident que la vie n'existe pas sans naissance, puisqu'elle commence par là. Mais dès l'instant où vous êtes mis au monde, vous n'êtes plus sûr de rien, sinon de mourir un jour. Vous ne savez pas si vous serez beau, riche, intelligent, si vous serez heureux ou malade. Vous savez juste que la mort vous attend. C'est d'ailleurs, à mon sens, la grande différence entre l'homme et l'animal. L'animal ignore toute sa vie qu'il va mourir, alors que l'homme vit avec sa mort. Un gosse qui voit mourir sa grand-mère ou son chien comprend très vite ce qu'est la mort. Je n'ai évidemment pas encore vécu ma propre mort. Mais j'ai côtoyé la mort d'être cher dans une proportion assez extraordinaire. Mon père est décédé dans un accident de voiture. Ma mère a succombé très jeune d'une leucémie. Mes deux frères cadets sont morts. George Donne et beaucoup de danseurs proches sont morts. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec la mort, qui a été parfois acceptable et parfois moins. Ce qui me trouble toujours, c'est de survivre à la disparition de gens plus jeunes. Pour ce qui est de ma propre mort, je dirais d'abord que je n'ai pas de réelle conscience du moi. J'ai d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet, « La vie de qui ?». Lorsque je considère le jeune homme qui a eu 20 ans, le monsieur qui en a eu 35, celui qui en a eu 50, je distingue des personnages que j'ai connus, mais il m'est difficile de réaliser qu'il s'agissait de moi. Ce sont des parties de moi. Alors je m'interroge, quand je vais mourir, qui va mourir ? Laquelle de ces figures va disparaître ? Je l'ignore.
Que garderez-vous très profondément, Anne Delbé, en vous de tous ces échanges, de ces complicités avec Maurice Béjart ?
Travail. Oui, c'est sa voix. Travail. C'est-à-dire que, bon, il y a la tristesse, il y a la peine, il y a... Mais tout d'un coup, il y a un rappel à l'ordre. C'est curieux, c'est cette constante de le voir travailler dans le studio, puisqu'il était tous les jours, même 10 jours avant qu'il soit mort. C'est, vous savez, on parle des génies, on dit il était ci, il était ça, mais finalement, on parle de Beethoven, on parle de Mozart. Alors, on montre des films sur Mozart, malicieux, etc. Mais on oublie trop que ce sont des êtres qui, du matin au soir, et sinon la nuit, puisque Maurice Béjart dormait peu, n'arrêtait pas de travailler. Quand je dis travailler, c'est-à-dire à la fois travailler au studio, à la fois créer des ballets, et travailler la nuit, lire, écouter de la musique, penser, penser. Mais aujourd'hui, le travail est si méprisé. On ne sait pas ce que c'est le mot travail. Le travail est une joie. Le travail est une sorte pour le créateur. C'est-à-dire que Maurice Béjart ne voulait plus perdre de temps. Vous voyez, dans les... D'ailleurs, il n'a jamais été mondain. C'est... Voilà, c'est ce qui me reste de lui. C'est que je me dis, oh, j'ai pas assez travaillé.
Comment la Fondation et la Compagnie Béjart vont-elles survivre au départ du fondateur, au départ du père, du créateur ?
J'ai entendu beaucoup cette question-là. Et je trouve que cette question est posée parce que précisément, souvent, les journalistes qui la posent ne s'intéressaient pas assez à Maurice Béjart ces récentes années. Sinon, ils sauraient que ça fait des années que Maurice Béjart a une équipe, il travaille. Que tout d'un coup, on découvre que Maurice Béjart est mort, mais que va devenir la suite ? Or, la suite, elle était l'avant, si je puis dire. C'est-à-dire, d'une part, cette compagnie, d'une part, d'abord, la ville de Lausanne, qui, dès l'annonce de la mort de Maurice Béjart, a témoigné au Béjart Ballet Lausanne, à la compagnie, qu'elle décidait de prolonger 3 ans. La plus belle réponse à cette mort, c'est-à-dire, on témoigne que quelque part, la mort n'a pas d'importance, elle n'est que le corps, mais que Maurice Béjart est là dans ses danseurs et dans ses créations. Que deuxièmement, il y a l'école Maurice Béjart, qui était une école gratuite, ce qu'on oublie aussi, ouverte à tous les jeunes dans le monde entier. Il est évident que les jours qui suivent et les mois qui suivent ne sont pas faciles. Donc il faut parler de l'émotion des danseurs, de la tristesse profonde des danseurs, il faut la respecter. D'autre part, il y a l'écriture qui va rester, comme l'écriture de Rimbaud ou l'écriture de Victor Hugo, c'est-à-dire ses chorégraphies.
Au moment même où on parle,
les danseurs sous la direction de Gilles Roman, comme hier, répètent les ballets de Maurice Béjart et répètent la création qui va s'ouvrir dans quelques jours. C'est-à-dire que Gilles Roman a continué de tenir la main de Maurice Béjart et transmet. Les grands chorégraphes d'aujourd'hui sont des disciples ou des émanations ou des parcelles de vie de Maurice Béjart, comme il aimait à le dire. Comme il disait, peut-être que j'ai sur mon dos un peu de parcelles de Louis XIV ou de Nijinsky ou de Wagner. Et donc, je pense que c'est, on va voir, mais je n'aime pas ce côté, vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est une œuvre vivante. Richard Wagner, sa musique est toujours là.
Maurice Béjart a été élu membre de l'Académie des Beaux-Arts, c'était le 1er juin 1994, et il avait été élu au fauteuil de Paul-Louis Weller, qui lui-même était un mécène, qui travaillait donc dans ce domaine du mécénat. Le mécénat, est-ce que c'est quelque chose qui a été un point positif dans la vie de Maurice Béjart? A-t-il été soutenu, compris, entendu, aidé, subventionné?
Maurice Béjart, on a l'impression qu'il a eu tout ce qu'il voulait toujours. Or, Maurice Béjart n'a jamais eu ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que je crois aussi qu'il se définissait comme un voyageur et qu'il reprenait toujours son bâton de pèlerin. Le Sacre du printemps a été fait en 3 semaines parce que précisément il était ruiné et il risquait la prison pour dette en France. Et heureusement, Huysmans, donc en Belgique, lui a proposé ce ballet qu'il a fait en 3 semaines. Comme il dit en riant, c'était ça ou la prison pour dette. Et ensuite, il n'a pas cessé de lutter. C'est-à-dire, il a eu cette pause à Bruxelles où il a pu vraiment travailler, ce ballet du XXe siècle. Mais je vais vous lire pourquoi il est reparti de Belgique. Alors, je ne parle pas de la France, naturellement, mais il va en parler un petit peu là, dans son texte à lui. Donc, c'est lui qui parle. Depuis Malraux, lorsqu'il était ministre des Affaires culturelles, j'ai reçu bon nombre de promesses qui ne se sont jamais réalisées. Comment ne pas aimer la France, terre de Molière ou de Baudelaire? Mais en même temps, l'esprit qui s'y vit me déplaît profondément. C'est un curieux mélange de petitesse, de mesquinerie et de folie des grandeurs. En France, la grandeur fascine et insupporte à la fois. Lorsqu'un véritable homme d'État s'y distingue, au mieux on le renvoie, au pire on le guillotine. France, mère des arts, c'est bien loin tout ça. Posséder n'a jamais été pour moi un objectif de vie. Tous mes revenus, tous mes droits d'auteur sont versés à ma fondation. J'ai toujours eu très peu d'argent. Il faut en avoir parce qu'il faut vivre, mais cela s'arrête là. Quant à moi, je ne me prive de rien, mais je n'ai jamais eu de grandes dépenses personnelles. Le Béjart Ballet est subventionné de manière rigoureuse par la ville de Lausanne. Alors il explique qu'il est parti de Bruxelles parce qu'il sentait que ça allait mal tourner, puisqu'on lui retirait de plus en plus les subventions. Les risques étaient terribles. Il avait 60 ans quand il a recommencer encore. Mais je sentais qu'il fallait partir. Les conditions n'étaient plus réunies pour que ma compagnie se réalise pleinement. Nous avons terminé la saison fin juin à Bruxelles pour commencer déjà les répétitions à Lausanne début août. C'était dans une salle de gymnastique. Nous avons repris nos activités dans de dures conditions, il est vrai, mais c'était la seule possibilité pour que la compagnie subsiste. La fondation Béjart Ballet Lausanne permet de suppléer dans une certaine mesure à ses manques. L'école est gratuite, mais quand vous arrivez de Chine en Suisse, il faut vivre. Sur la 20aine d'élèves qui entrent chaque année, il y en a au moins 12 qui n'ont pas les moyens de vivre sans aide financière. Ces danseurs reçoivent donc une allocation mensuelle de la fondation pour être nourris, logés et blanchis. La fondation intervient aussi pour payer les professeurs invités pour d'autres choses encore. Et vous voyez, c'est toute cette idée de Maurice, c'est pour ça que Maurice Béjart, pardon, c'est de transmettre tout le temps à des jeunes. C'est-à-dire, d'une part, d'ouvrir continuellement à d'autres. Quand il dit « je n'ai rien possédé », c'est un des artistes que j'ai rencontrés qui était le moins possesseur de sa propre œuvre. Vous savez, les artistes qui sont très jaloux si on les copie. Maurice Béjart s'est fait piller, mais à un point extraordinaire. Et ça l'amusait toujours en disant, ben, si ça peut servir. C'est-à-dire que cette transmission, bon, moi je l'ai vécue aussi personnellement, puisque ma fille avait 11 ans, et il a dit, ah, qu'elle vienne, que je vois comment elle danse. Et puis, elle est devenue danseuse, elle est danseuse chez Maurice Béjart. C'est-à-dire que non seulement, quand il rencontrait quelqu'un qui est 6 ans, et c'est pour ça que ça m'a rappelé Barrault quand j'ai rencontré 6 ans, c'est non pas je vais te parler comme un enfant stupide, mais tout de suite je vais te parler de Mozart, je vais te parler. Et ça a fait des générations entières de jeunes garçons et de jeunes filles qui peut-être ont 60 ans aujourd'hui, 90 ans, qui tous ont reçu une parcelle et qui peu à peu ont transmis. Or, les jeunes de l'école aujourd'hui et ces danseurs, par-delà leur peine et leur douleur, possèdent une parcelle de Maurice Béjart. Ils vont nous la transmettre.
Quand on a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.
À cette complicité affective qui vous unissait à Maurice Béjart et que nous avons ressenti dans vos paroles, Anne Delbé, s'ajoutait une complicité d'ordre professionnel puisque Maurice Béjart a été l'auteur lui aussi de plusieurs pièces de théâtre.
Oui, une complicité de travail puisque Maurice Béjart, j'aime à le définir, si on pouvait le définir, comme un homme de théâtre puisque dès l'âge de 12 ans, il a monté des extraits de Faust avec sa sœur où il jouait Méphisto. Mais il avait cette passion pour non seulement mettre en ballet des pièces de théâtre, mais il écrivait aussi effectivement des pièces de théâtre, comme La Reine Verte, qu'il avait écrit pour Maria Cazares, Assis Rock, qu'il a fait avec Gilles Roman, et aussi une passion pour les pièces de théâtre, et notamment pour Oh les beaux jours de Samuel Beckett, qui restait pour lui sa plus grande pièce, puisque il ne se levait pas un seul matin, disait-il, en se disant quelques passages de Oh les beaux jours. En plus, il a écrit qu'il avait effectivement « J'ai appris la danse en faisant la barre », disait-il, mais il disait aussi « J'ai appris la danse en voyant Madeleine Renaud jouer Oh les beaux jours ». Et quand il m'a appelé vraiment pour travailler auprès de lui, et non pas simplement pour discuter, pour dialoguer, mais pour vraiment être son assistante, c'était pour Oh les beaux jours, où vraiment il voulait absolument que je sois à ses côtés pour Winnie et Willy, pour ce ballet qu'il a fait à partir de Oh les beaux jours de Samuel Beckett. Et il avait, nous avions peut-être aussi cette passion commune pour Madeleine Renaud. Donc on va entendre quelques passages de « Oh les beaux jours » où cette femme va résister à l'enlisement du monde entier. Je pense qu'il se reconnaissait vraiment dans ce petit personnage apparemment discret mais qui luttait contre la bêtise humaine et l'oubli.
« De la mesure en toute chose. Je ne peux plus rien faire. » Plus rien dire. Mais je dois dire plus. Problème ici. Non. Il faut que ça bouge. Quelque chose dans le monde, moi, c'est fini. Un zéphyr. Un souffle. Quels sont ces vers immortels? Ce pourrait être le noir éternel. Nuit noire sans issue. Simple hasard, je présume. Heureux hasard. Ah oui. Abondance de bonté. Et maintenant. Et maintenant. Willy. Ce jour-là. champagne rose. Les verres flûtent. Enfin seul. La dernière rasade. Les corps se touchant presque. Le regard. Quel jour-là. Quel regard. J'entends des cris. Chante. Chante ta vieille chanson.
Anne Delbé, que représentait le sacré, la dimension spirituelle pour Maurice Béjart?
Donc, une fois de plus, je ne veux pas répondre à sa place. Sinon que nous savons tous qu'il nous a laissé des ballets et qu'il a fait des ballets autour alors des textes typiquement sacrés, donc toujours été habité de toute façon par le sacré. Mais je dirais, je pense que le mieux, c'est de le laisser parler. La religion, on la ressent, elle est inexprimable. Tandis que l'art est un langage auditif, littéraire, sculptural, qui traduit sous des formes sensibles la beauté du sacré. L'artiste est d'abord quelqu'un qui vit une réalité transcendantale pour en donner ensuite une version à ses frères. C'est un médium qui comprend une certaine vérité et la transmet dans la matière. Et comme petit à petit les religions se sont désagrégées, les artistes, ne sachant plus très bien quelle était leur fonction, se sont tapés la tête contre le mur, d'où un art du désespoir que l'on constate aujourd'hui. Mais lui aimait à répéter « Je ne croirais qu'un dieu qui saurait danser », c'est-à-dire la phrase de Nietzsche dans « Ainsi parle Zarathoustra ». Et un de ses derniers ballets, c'est la reprise Zarathoustra. Donc, je pense qu'on a la réponse. Et souvent, il citait cette phrase de Nietzsche aussi « Tout est joie ». J'éprouve toujours une grande émotion entrée dans une église, mais pas plus grande que si je pénètre dans une mosquée ou un temple hindou. Ma divinité est la danse. Par la suite, il y a eu la découverte plus en profondeur de l'Inde, que je connaissais beaucoup par mon père, puis du Japon, où j'ai rencontré un maître, puis de l'Iran, où j'ai rencontré un autre maître. J'ai alors éprouvé un sentiment d'évidence. Les différentes religions sont des sortes de panneaux transparents qui peuvent se recouvrir sans se cacher, sans lutter l'un contre l'autre. J'ai compris qu'il existe une vérité exprimée par différents langages. Mes cheminements sont surtout ponctués de rencontres. J'ai vécu une rencontre avec des Indiens, avec le japonais Deshimaru, qui m'a fait faire de la méditation zen et du kendo, avec un maître de musique iranien, Nour Ali Elahi, qui était un soufi. Tous ces apports ont exercé une influence sur mon travail. Je reste un voyageur. Ce voyageur est à la fois égaré dans un monde illusoire où les apparences ne sont pas toujours très jolies et un monde profond où le chemin se révèle d'une très grande limpidité. Je fréquente donc simultanément le monde de la multiplicité chaotique, plein de faux-semblants, et le monde de l'unité, lumineux et simple. La danse est sans doute l'un des premiers arts qui est apparu. Qui a précédé l'autre? La musique ou la danse? Le type qui a joué du tam-tam ou le type qui a tapé du pied? La danse sacrée, où un personnage seul entre en communication avec la divinité, avec les esprits, avec les morts, avec l'âme de la tribu. Il danse avec une entité dont il est l'interprète. Il fait le lien entre une vérité cachée et la vérité de la tribu vivante. La danse sociale se pratique évidemment en groupe, dans le même rythme. On y retrouve presque toujours le geste de la farandole, du cercle, de l'union des mains. Il n'existe pas d'autres origines. Le reste vient plus tard, par certaines déformations, la danse spectacle, la danse mondaine et ainsi de suite. Une danse, quelle qu'elle soit, doit conserver au moins une parcelle du rituel sacré et une parcelle du rituel social pour conserver ses racines. Un art qui n'est plus rattaché à rien n'est plus un art. Malgré les déformations, la popularisation, les contraintes économiques, une petite goutte de sacré et de social doit demeurer dans un ballet.
Et après Anne Delbé, lorsque l'on passe, comme Maurice Béjart vient de le faire, de l'autre côté du rideau, est-ce que justement Maurice Béjart s'est exprimé, a écrit, a laissé des mots, des paroles par rapport à l'autre état ?
Oui, on va d'ailleurs l'entendre répondre, mais... Avant, je voudrais, puisqu'on finit cette première partie, évoquer un souvenir. C'était au Palais des Sports il y a donc à peu près plusieurs années ou plusieurs mois, qu'importe, avec Maurice Béjart. Mais il était déjà assez âgé, très âgé. Et il venait de répéter, comme toujours, des heures et des heures, même le jour même de la première. Et puis les danseurs sont partis, tout le monde est parti, il est resté assis, comme il le faisait de dos sur le plateau. Et j'étais assise de l'autre côté dans la salle, mais le rideau n'était pas fermé. Et au lieu de s'en aller dans sa loge, il est resté là longtemps, tout seul. Et à un moment donné, je me suis approchée, et parce que je sais ce que c'est pour un metteur en scène d'être tout seul sur le plateau. Tout bruisse autour de vous, et il m'a dit « c'est là où je me sens le mieux, c'est là où... » où je respire, j'entends tout, j'entends... Et je pense que, en faisant cette émission, je revois cette image de Maurice et j'ai l'impression que c'est ça de l'autre côté. C'est-à-dire que, quand nous sommes du côté de la salle, on est agité, on vient de prendre le train, on arrive, on se demande ce qu'est devenu sa tante, etc. Vous voyez, on a plein de conversations, ça bruisse de partout. Puis tout d'un coup, de l'autre côté, c'est le silence et tout l'espace et le rêve total et... Je pense qu'il s'est exprimé très bien là-dessus et peut-être on va entendre ce qu'il nous envoie de l'autre côté. Je suis en effet convaincu qu'il existe quelque chose après la vie. Mais attention, je ne sais pas quelle forme a cet au-delà. Je ne crois pas, comme chez les chrétiens, que je vais aller dans un purgatoire où je serai jugé et ensuite dirigé vers le paradis ou vers l'enfer. Je ne pense pas non plus... Après ma mort, attendre quelques mois ou quelques années avant de revenir sous la forme d'un enfant américain ou tibétain. Non. Mais je crois qu'il existe une dimension, une étincelle du divin qui est réutilisable. La réincarnation ne veut rien dire d'autre que certains éléments sont réutilisables. Je peux par exemple imaginer que j'ai le petit ongle du petit doigt de Richard Wagner, sans être la réincarnation de Richard Wagner. Je peux réutiliser une parcelle de Wagner, que ce soit du point de vue physique, spirituel ou métaphysique, et ainsi de suite. Après tout, mon corps utilise des cellules qui viennent de mon père et de ma mère. Vous savez, il existe dans le vignoble vaudois un minuscule cimetière, avec juste quelques tombes. Il est entouré de vignes. Les plants sont si proches que j'ai toujours pensé que les racines se nourrissaient des morts qui reposent là. Une partie de la matière de ces corps se transforme en bon vin du canton de Vaud. C'est la vie. Récupération, réutilisation d'un organisme dans l'autre, d'une pensée dans l'autre.
Alors justement, toutes ces petites parcelles que vous avez rassemblées pour nous en faire lecture maintenant sont extraites d'un seul même livre.
Tout à fait. Parce que, outre le privilège d'avoir rencontré Maurice Béjart, enfin, j'ai eu cette chance qu'il me demande de travailler à ses côtés pour, pour le ballet qu'il a fait autour de « Oh les beaux jours » de Beckett, qui était la pièce qu'il préférait entre toutes. Et je voulais rappeler que Maurice Béjart non seulement faisait des ballets sur une musique, mais pouvait faire des ballets sur Baudelaire ou sur Victor Hugo. C'est-à-dire un immense amour, passion pour les poètes. Et quand donc je l'ai beaucoup plus côtoyé durant ce travail, il m'a offert un livre qui s'appelle « Le ballet des mots ». Et j'ai voulu prendre les textes que de ce livre-là,
« Le ballet des mots ». Le ballet des mots écrit par lui-même.
Écrit par lui-même. Et ça m'a beaucoup touchée parce que c'est... Voilà, il m'a dit « J'aimerais que vous le disiez, Anne ». Il me l'a vraiment offert. Alors, ça se trouve plus beaucoup, « Le ballet des mots » dans les belles lettres. Et je voulais, faire entendre cette voix de Maurice Béjart. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut sur Maurice Béjart, c'est quand même mieux de l'entendre, lui. Alors malheureusement, ce n'est pas lui qui le dit. J'essaierai d'être un serviteur fidèle.
Nous vous écoutons.
Lors de mes premières tentatives d'écriture, j'eus soin de préciser que les mots et les phrases dansaient sous ma plume comme des jambes ou des bras, exécutant une figure à la fois élaborée et spontanée, et que mes livres n'étaient pas autre chose que des ballets de mots, images, impressions, cadences, rythmes conçus en union avec mes chorégraphies. Dès mon enfance, l'image de Richard Wagner s'est imposée à moi comme celle d'un père, d'un maître, d'un alter ego, ombre immense insérée dans mon subconscient, parce que c'était lui, parce que c'était moi, comme le murmurait Montaigne. En 1960, à la mort de mon père, j'héritais avec la douleur de perdre cet être si simple et si exceptionnel de son journal intime écrit jour après jour dans de petits cahiers de cuir vert. Je lisais ces pages à la cantine du Festspielhaus de Bayreuth entre les répétitions du Tannhauser et commençais la rédaction de Mathilde entre les bras de ce père plus présent que jamais dans cet inconnu fascinant de la mort où il avait rejoint mon ami Richard. 30 ans plus tard, dans ce café bruxellois, la mort subite où j'avais bu jadis à quelques mois d'intervalle une gueuse avec Wieland Wagner, son petit-fils, et avec Gaston, le père devenu frère, puisque sa mort l'avait rajeuni par rapport à moi, je commençais le journal de ses souvenirs d'enfance, entrecoupé de certaines pages importantes de Gaston Berger. Biographie imaginaire. Comme j'intitulais le Molière imaginaire, ou plutôt imaginal, pour employer un mot cher au philosophe iranologue français Henri Corbin. Et ainsi, découverte imaginale de Jung, Mishima, Goethe, Nietzsche, Fellini, Chaplin, Pasolini. Tous mes amis sont là, je flâne devant la maison de Schiller, je découvre la Nietzsche archive en haut de la colline, les roses de Goethe autour de la petite maison nichée dans les prés au bord de la rivière, et les antiques trop grands pour la belle mais néanmoins petite maison bourgeoise du centre-ville. Suis-je encore en train de faire une préface? Et qu'ai-je à expliquer et en quoi me justifier? Dans un seul volume en vrac, je balance 30 ans de mots. Pourquoi établir des rapports entre ces phrases, classifier ces arguments? Oui, ce qui reste, et vous sera peut-être lisible encore entre les lignes, mais je préfère ma danse à ma prose, peut-être. Ce qui reste, c'est ce que le grand poète René Char nommait l'artisanat furieux. Et alors, La musique, d'où venait-elle? Robert venait d'entrer dans la rue principale de la ville. La musique. Il se souvenait de cette musique, oui, il y avait longtemps. C'était le prélude d'un opéra qu'il avait vu il y avait longtemps dans une autre ville. Un opéra qu'il avait vu par hasard. Il n'aimait pas tellement l'opéra un soir. Avec une femme, elle portait le même parfum que Mathilde. Mais ce n'était pas Mathilde, il s'en souviendrait. Ce parfum soudain lui faisait chaud et mal. Il se rappelait le cou de Mathilde, le cou blanc toujours un peu incliné de Mathilde. Et la musique aussi lui faisait chaud et mal. Mais il ne savait pas si c'était le parfum à cause de la musique ou la musique à cause du parfum. Un soir, ce prélude avait commencé et tout de suite il avait pris la main de cette femme. Il l'avait prise pour la première fois, cette main, et il l'avait retrouvée la même, inchangée. Pour la première fois, cette main, comme chaque jour. Non, ce n'était pas la main de Mathilde, malgré le parfum, mais il la serrait très fort, cette main, et la musique lui mettait des mots à la bouche, des mots qu'il n'avait pas besoin de dire, puisque la musique parlait. La musique parlait. C'était presque à présent une tempête. Sa main effleura l'eau, elle n'était pas froide. Il la laissa lentement, très lentement pénétrer la mer. Et c'était comme une bouche tiède qui se collait le long de ses doigts et aspirait sa chair. Il l'enfonça jusqu'au-dessus du poignet. Lentement, la mer l'aspirait. Il ne ressentait rien qu'un bien-être tranquille, un vide lourd. Et la tempête passait et remuait les vagues sombres qui venaient lécher son avant-bras. La musique venait de mourir. Le silence. Le temps venait de mourir. L'espace était vide. L'enfant monte l'escalier. La nuit devient plus claire. Un escalier immense, interminable. L'enfant monte l'escalier. La nuit devient de plus en plus claire. Il monte toujours, l'aurore. Il monte. Et soudain, en haut de l'escalier, sur une grande plateforme, énorme, terrible, aveuglant, le soleil. L'enfant n'a pas peur. Il regarde le soleil en face. Sort son couteau. Et le lui plonge dans le cœur. Le soleil se couche et saigne dans la mer. Le ciel aussi est rouge. Le soleil se couche lentement, en technicolore. La mer est pleine de sang. Le soleil s'affaisse et disparaît. Le soleil n'est plus. Il fait noir. L'enfant descend les escaliers en courant. Il fait noir, il titube, il rate une marche, il tombe. L'enfant roule dans les escaliers, il crie, il fait noir, il roule, il arrive en bas. La route, sans lune, il court, aveugle. Citation. Je me suis entretenue avec la mort et elle m'a assuré que rien n'existe en dehors d'elle. Jean-Paul Richter.
Vous êtes à l'écoute des programmes de Canal Académie et nous avons rendez-vous donc avec Maurice Béjart de l'Académie des Beaux-Arts grâce à Anne Delbé qui nous invite à découvrir donc Maurice Béjart, le poète. Anne Delbé, nous venons de vous écouter dans des lectures qui sont extraites du livre de Maurice Béjart, Le Ballet des mots. Vous nous avez lu des extraits de la première partie de ce livre et cette première partie porte le nom d'une femme, Mathilde. Alors, qui était cette Mathilde ?
Oui, cette première partie de ce livre que Maurice Béjart lui-même m'a offert porte ce nom, Mathilde ou le temps perdu. Cette femme, Mathilde, était mariée à Otto Wesendonck, c'était le ménage Wesendonck, qui a accueilli Richard Wagner, qui l'a même logé, et qui est devenu très ami Otto. Le mari finançait les concerts des œuvres de Richard Wagner. Petit à petit, et je crois que là aussi, le mieux, c'est de laisser Maurice Béjart expliquer qui était Mathilde. Là, les visites entre Richard et Mathilde se multiplièrent. Chaque soir, Wagner lui jouait ses compositions au piano et lui lisait ses œuvres littéraires. Rapidement, leur amitié et leur admiration réciproque se transformèrent en amour passionné et la composition de la tétralogie fut suspendue pour laisser la place à Tristan. Déjà à la fin de l'année, il offrait le premier acte à Mathilde avec ses mots, les larmes, les baisers de Tristan et Isolde. Je dépose tout cela à tes pieds afin qu'ils célèbrent l'ange qui m'a porté si haut. Les rencontres journalières avaient forcément rendu nos relations plus intimes, écrit Wagner. Otto manifestait une certaine inquiétude de ce que je devenais, et si familier dans cette maison. Malgré tout, le scandale survint, et Wagner, obligé de quitter Mathilde, se réfugia à Venise, où dans la douleur, la solitude et l'attente, il termina Tristan.
Anne Delbé, la deuxième partie du livre de Maurice Béjart, Le Ballet des mots, est consacrée, alors là, plus particulièrement à un dialogue que Maurice Béjart a continué à établir et à continuer avec son père Gaston Berger, qui était philosophe, je crois.
Oui, Gaston Berger était philosophe. Il a beaucoup inspiré Maurice Béjart, même après sa mort, puisque Gaston Berger est mort subitement dans un accident de voiture encore très jeune. La première partie du livre, comme vous l'avez entendu, était autour de Wagner, de la rencontre de Wagner et de Mathilde. La seconde partie, l'intitulée Maurice Béjart, la mort subite. Mort subite, mort de son père, un accident de voiture. Et journal intime, Gaston Berger. C'est-à-dire qu'il a entrelacé, si on peut dire, sa propre écriture aux réflexions philosophiques de Gaston Berger. Les réflexions de Gaston Berger, donc le père de Maurice Béjart, philosophe, sont écrites en italique. Et c'est pourquoi, à chaque fois que je soumets une réflexion de Gaston Berger, je dis avant italique. Et c'est tout ce dialogue que Maurice Béjart a continué au-delà de la mort de son père, au-delà de la mort de Maurice Béjart et de Gaston Berger. On va réécouter ce dialogue intime du fils et du père. Je n'en finis pas de commencer ma vie. Quand je pense qu'il y en a qui n'attendent pas d'avoir 20 ans pour commencer leur mort. J'aurais aimé publier chacun de ces 9 chapitres qui ne sont à vrai dire que le perpétuel début d'un livre impossible à écrire, en cahiers séparés. Le lecteur aurait donc pu commencer par le début qu'il voulait et ainsi, sautillant de fascicule en fascicule, arriver à une fin, sa fin à lui, qui comme chaque fin n'est que le début d'autre chose. De toute façon, la chronologie est une imposture qui n'est pratique que pour ceux dont le cœur est horloge. Les textes de Gaston Berger, extraits de ses carnets inédits, sont en italique. Italique. L'érudit croit être fin comme l'artiste et précis comme le savant. Cultivé parce qu'il travaille sur les grands livres, scientifique parce qu'il compte les virgules comme d'autres comptent les atomes. Mais le comptage en lui-même est sans valeur. Et manier les livres est travail d'assistant. Ce qui importe, c'est de les écrire. Gaston Berger. Orson Welles disait « Je n'aime pas les films. J'aime faire des films. » C'est vrai, je n'aime pas les ballets. J'aime faire des ballets. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Et même maintenant, je crois écrire. Mais je règle des mots comme on règle des pas. Un chorégraphe ne peut pas travailler seul. Tu l'as dit assez souvent. La chorégraphie se fait à deux, comme l'amour. Pour régler ce ballet de lettres, j'ai pris mon père comme interprète. Et nous dansons ensemble. Dans la danse, l'interprète est toujours d'une façon ou d'une autre, le co-auteur. Nous, les chorégraphes, sommes les perpétuels voleurs de leur vie. Les corps, les sentiments de nos danseurs, dont nous jouons parfois avec une immodestie gênante, sont les pierres de nos édifices. Je sculpte dans la chair, mais la chair n'est que continuelle transformation, et les ballets vivent et meurent au rythme de cette chair dont je ne suis que le serviteur. On rêve de cette danse spontanée, libre, cette danse chaude comme la vie est facile pour tous. Mais l'art, quel qu'il soit, suppose un artisanat. Un apprentissage lent, pénible, quotidien. Faire croire à la facilité n'est pas facile. Italique. Tout commence par la poésie. Rien ne se fait sans la technique. Mais il faut que la poésie, au sens fort du mot, soit partout si présente que l'apprentissage des mécanismes ne tarisse pas la source vive de la création. Il n'y a pas de création sans technique. Une sonate, un tableau, un poème ne font pas exception à cette règle. Seuls les incompétents ignorent ou méprisent la part que prennent dans la littérature ou dans les arts la connaissance, la lucidité, le travail, c'est-à-dire le métier. Gaston Berger. Viens, papa, on va danser. Bruxelles. J'arrive à Bruxelles, il y a 100 ans, ou avant-hier peut-être. Bruxelles, ville étrange, toute morte et toute vivante, maritime sans mer et liquide sans fleuve, et belle, sans beauté. Des rues où l'on marche, l'odeur de Baudelaire encore présente, entre celui qui crache et le petit qui pisse. Des rues où l'on rêve dans l'aigreur douce de la bière, et le relent des musiques ressassées. Bruxelles. Dès les premiers jours, un lieu me tente, juste derrière le théâtre de la Monnaie. Un vieux café plein de moulures et de miroirs fanés, dont le nom éclate en néon rouge, pseudo-érotico-gothique, la mort subite. J'entre. On y boit de la gueuse. La mort subite. J'y entre avec la partition d'orchestre du Sacre du Printemps sous le bras. Et mon vieux sac quasi-poubelle, où Nietzsche est à l'aise à côté des maillots troués, des serviettes sales et de mes vieux chaussons. Je travaille, je rêve, je marche dans les rues, la nuit surtout. Je vais au cinéma, j'apprends, je fais l'amour, je cherche, je marche. Depuis quand? Curieux ce sentiment que j'ai en moi, que j'ai toujours eu, depuis la petite école là-bas à Marseille, ce sentiment d'être immortel, d'être éternel. Non, je ne vais pas vous parler de mon âme. D'ailleurs, où est-elle? au sommet de l'Himalaya ou au bout de ma barre de danse. Je vais vous parler de Gaston. Je vais vous parler de ce père qui était là, assis en face de moi dans ce café, un jour, il y a longtemps, juste à cette même table où j'aime toujours m'asseoir. Je vais laisser parler ce père qui, lui, bien sûr, vous parlera de tout, ou peut-être de rien, et se mettant à chanter, sautera sur un cheval et disparaîtra au galop. Gaston a écrit des thèses, des ouvrages, qui vont de la mystique aux problèmes industriels. Gaston ne se voulait pas écrivain. On me déclare ceci ou cela, je ne peux me définir que par mes amours ou mes amitiés. A-t-il écrit cette phrase ? En tout cas, je l'entends encore la prononcer.
Mon cœur, ma mie, mon âme, mon ciel, mon feu, ma flamme, mon puits, ma source, mon val, mon miel, mon baume, mon graal, mon blé, mon or, ma terre, mon soc, mon roc, ma pierre.
Une lumière, encore une fête foraine, une laiterie qui brûle. On a réussi à ouvrir les portes et les vaches paniquées ont envahi la chaussée. Elles tournent sur elles-mêmes dans l'embouteillage des retours du dimanche soir. Peur, certainement, mais aussi, et cela ne m'a pas encore quitté, fascination absolue devant les flammes, les yeux fixes, le nez écrasé contre la glace de la voiture que mon père a prudemment remontée. Je regarde cette danse magique sans me préoccuper des vaches affolées qui parfois heurtent la voiture, ni de ces gens qui ne le sont pas moins, écrient, klaxonnent, agitent les bras, s'interpellent. « Oh, peu cher, pousse-toi un peu, va !» Bien mise en scène par Pagnol. J'aime le feu. L'Aug et le Valhall sont encore loin. Mon père a réussi à dégager la voiture. Nous roulons, il m'embrasse. Italique. Le temps n'est que notre manière de nous représenter la situation sur le mode de l'imagination. Gaston Berger. C'est Picasso qui disait « Ça prend beaucoup de temps pour devenir jeune. » Mais à nouveau, je me cite « Il faut que nos jeunes gens apprennent à vivre dans un univers devenu étrangement mobile. Ils n'y sont pas préparés, c'est une des raisons de leur malaise. L'accélération de l'histoire dont les hommes d'âge prennent conscience en comparant leur jeunesse et leur maturité leur est donnée sous la forme de l'inquiétude. Ils sentent que l'avenir est plein de risques. Rien n'y est vraiment garanti. Lorsque j'enseignais aux États-Unis, j'ai senti chez les jeunes une immense nostalgie qu'ils camouflaient comme ils pouvaient sous une apparente décontraction et parfois laissaient exploser dans une violence excessive, finalement enfantine et absurde. Dans l'angoisse, ils se hâtent de devenir ce qu'on nomme des adultes et qui ne sont que de vieux enfants attardés pour s'accrocher à cette réalité, la seule réalité, l'argent. Ils se disent réalistes, mais la réalité, c'est la terre, cet arbre, l'eau que je vois couler, le pain que je mange, l'être que j'embrasse. La réalité, elle se touche, elle s'étreint. Mon père savait tout faire. Je ne l'ai jamais vu danser. Bien sûr, dans son journal, surtout dans les années 25, on ne parle que de sorties, de balletti, de samedi soir populaire et extravagant. Mais là, je n'étais pas née. Ou bien on ne m'emmenait pas. Et je n'ai que le souvenir de ma mère. Son parfum. Sa peau. Son regard qui m'embrasse dans mon lit. Sois sage, dors. Je te raconterai demain. Et bien sûr, je ne dormais pas. J'attendais son retour. Je t'en prie, maman, danse avec moi. Elle me grondait. Je sortais du lit, elle chantonnait. Et moi, serré contre elle, la tête à la hauteur de sa poitrine, elle était toute petite. Je dansais et m'endormais en dansant dans sa transpiration fiévreuse. Tu as raison. Si mon père était vivant, je le ferais danser. le choc de la mort de ma mère, les insomnies d'un enfant de 7 ans. Tu te souviens de la mort de ta mère ? La mort ? Non. J'étais en coulisses. Tu n'aurais pas envie un jour de réunir les mères de tous tes danseurs et leur régler un immense tango ? Chacune aurait le droit d'emporter avec elle, sur scène, un objet aimé, un vase, un fauteuil, une casserole, une belle robe de mariée, un ours en pluche, un bénitier, un édredon, une mobilette, un chimpanzé, un balcon fleuri bien entretenu, un vibromasseur, un gros paquet de lettres d'amour, une voiture d'enfant vide, un pot de chambre rempli de crème anti-ride, le fusil de chasse de son mari, un aspirateur, une lampe de chevet verte, un accordéon. Moi, je parlais de ma mère. Toi, toi, toujours toi, rien que toi, regarde dans ce miroir. C'est vrai, tu aimes les miroirs. C'est un symbole de la divinité. As-tu vu au Japon les autels des temples Shinto ? Comme toujours, tu pars de Dieu et puis tu reviens à toi. Mais passé l'angoisse du matin revenu, qui est ce personnage qui me regarde dans les yeux ? Tu n'as pas vu les autoportraits ? Léonard, Rembrandt, Van Gogh, Ingres, ce regard qui cherche au-delà du regard, au-delà du masque de chair, et tente de rejoindre le « connais-toi toi-même » de Socrate. Ma mère aussi est ma fille, puisque lorsque je pense à elle, je ne vois qu'une très belle jeune femme qui a 30 ans de moins que moi. Mais alors, Mozart aussi est mon fils, comme James Dean. Et si je vis aussi vieux que Verdi, mon père alors deviendra mon fils. Le désordre de ma mémoire, l'incohérent de mon temps, est une ville magique que je parcours chaque nuit en dansant. Au fond, n'es-tu pas un peu le touriste de ta vie ? Béjart en 9 chapitres avec en prime des textes de Gaston Berger. Tu aurais dû continuer la corrida, au moins tu l'aurais rencontrée, celle dont tu parles tant, la mort. Italique. Ma liberté totale. Je ne sais pas ce que sera mon âme après ma mort, mais cela n'est pas plus indispensable à ma liberté que la connaissance de ce qui m'adviendra demain. Au contraire, cette ignorance est liée à ma liberté. La foi n'exige pas la lumière, c'est pour cela qu'elle est libre. Mais elle n'est pas absurde, car elle enveloppe l'amour de la lumière. La lumière ne brille pas contre les ombres, elle les fait s'évanouir. Gaston Berger. Il me disait « C'est le moi plus que les choses qu'il faut mettre en question. » Il parlait souvent de révolution, mais d'une révolution intérieure et permanente. Changer le monde, si l'on est incapable de se changer soi-même, est une dangereuse utopie. On peut le constater chaque jour. Je cite ses paroles. « L'ordre du devoir n'est pas de préparer une cité juste pour nos arrière-petits-enfants. Il est d'être juste nous-mêmes et tout de suite. » Brunehild, dans le texte final, nous donne la clé, le moyen de transformer le crépuscule en aube. Savez-vous où je vais ? Je quitte la demeure du désir. Je fuis à jamais la demeure de l'illusion. Je ferme derrière moi les portes du devenir éternel. Parvenu à la connaissance, délivré de la réincarnation, je gagne le pays élu. Sacré entre tous, but de la course du monde, d'où sont bannis désirs et illusions, cette fin bienheureuse de tout ce qui est éternel, savez-vous comment je l'ai obtenue ? La douleur suprême d'un amour en deuil m'a ouvert les yeux, j'ai vu finir le monde. Curieusement, après de nombreuses hésitations, Wagner coupa ce texte de sa version définitive du Götterdämmerung pour laisser la musique seule conclure dans un sublime postlude. Peut-être ces paroles qui contiennent le germe de Parsifal ont été mises en réserve pour servir de source à cette œuvre dernière qui est un peu son testament.
Anne Delbé, en prologue à cet hommage adressé à Maurice Béjart dans ses lieux et sur ses ondes académiques et toujours sur cette magnifique musique testament de Richard Wagner, vous avez choisi une phrase très émouvante de Gaston Berger, que Gaston Berger, le père, et Maurice Béjart, le fils, nous adressent d'ailleurs peut-être tous deux aujourd'hui.
Fin du testament de Gaston Berger. Dans le règne inconnu auquel j'appartiendrai quand vous lirez ces lignes, je voudrais encore pouvoir vous aimer.